Allez, merci. Je laisse la parole à Michel Favret pour la chronique astronomie et astrologie, c'est ça, hein, aujourd'hui. Hein.
Voilà, pour une fois, on va faire une petite incartade ailleurs que dans l'astronomie, parce que la première fois, en septembre, quand j'étais venu, Joël avait présenté ma chronique en disant que c'était une chronique d'astrologie, ce qui est toujours un peu crispant pour les astronomes professionnels ou amateurs de voir la confusion des deux mots alors qu'il s'agit de choses complètement différentes.
Alors finalement, aujourd'hui c'est l'astrologie, hein, je ne me trompe pas.
On va parler un peu des deux, alors... mais on va faire un petit détour dans l'astrologie. Quand on évoque le ciel et l'espace, on a à la fois la superposition de connaissances scientifiques, ça c'est l'astronomie, hein, amenée par les observations, par les sondes qu'on envoie dans l'espace, etc., et des vieilles croyances qui datent plus ou moins loin, souvent elles viennent de l'Antiquité, qui perdurent bizarrement jusqu'à nos jours. Si je prends un exemple tout bête, on a l'habitude de faire un vœu quand on voit une étoile filante, ben ça vient d'une vieille croyance antique, parce qu'à l'époque, le phénomène était totalement inexplicable. C'est seulement au XIXe siècle qu'on a découvert que c'était des petits graviers dans l'espace qui rentraient dans l'atmosphère et qui provoquaient les étoiles filantes. Donc à l'époque, on n'avait pas d'explication. Et un peu comme d'autres phénomènes, par exemple les aurores boréales, que je suis allé voir en février, là en Islande, on pensait que c'était l'âme des morts qui partait vers le ciel. Et on avait pris l'habitude de faire un vœu pour un mort. Et c'est duré jusqu'à aujourd'hui. On fait un vœu maintenant pour soi, parce qu'on est devenu beaucoup plus égoïste que dans l'Antiquité, je pense. Voilà. Dans d'autres cas, c'est des explications qu'on pourrait trouver presque scientifiques à l'époque, hein, même si aujourd'hui on sait qu'elles sont complètement erronées. Y a un exemple avec la Lune qui est l'objet principal le plus impressionnant qu'on peut voir dans le ciel la nuit. On a longtemps pensé qu'elle avait un effet sur tout ce qui poussait sur Terre, c'est-à-dire bien sûr les marées, ça c'est juste, mais aussi la pousse des végétaux, des cheveux, même on pensait que ça pouvait avoir une influence sur les accouchements, qui soi-disant sont plus nombreux à la pleine lune, ce qui est complètement faux. Et un exemple parmi d'autres, c'est le jardinage. Il y a beaucoup de jardiniers, moi je suis toujours effaré quand je cherche lune et jardinage sur Internet, du nombre de bouquins, de calendriers qu'on voit encore aujourd'hui là-dessus, alors que ça fait 350 ans qu'on sait que c'est complètement faux. Et c'est pas un astronome qui le dit, c'est un jardinier. Alors j'ai son nom quelque part pour pas me tromper. C'est Jean-Baptiste de la Quintinie. Voilà. Il était le jardinier de Louis XIV, donc il s'occupait de tous les jardins fruitiers et potagers du roi, y compris celui de Versailles, ce qui est quand même pas rien. Et en 1670, il a entrepris de rédiger un ouvrage sur les techniques et des conseils aux jardiniers, qui a été publié qu'en 1690, deux ans après sa mort, et qui s'intitule « Instructions pour les jardins fruitiers potagers ». Et comme il avait fait l'essai, lui, sur les mêmes parcelles, de planter les mêmes semences, soit en observant le calendrier lunaire, soit en le faisant comme il voulait, il s'est aperçu qu'il n'y avait aucune différence. Et en fait, dans son bouquin, il expliquait que pour les semences, le premier jour de lune comme le dernier sont entièrement favorables à cet égard. Il avait même des mots très durs pour les jardiniers qui se fient à la lune, parce qu'il disait que la croyance en jardinage sur les lunaisons ne sont que vieux dires de jardiniers mal habiles, c'est-à-dire des mauvaises connaissances de jardiniers pas très doués. Voilà. Alors, comme avec ces exemples simples que je viens de vous donner, l'astrologie, c'est une survivance à notre époque d'une croyance très très ancienne. Alors que l'astronomie, c'est une discipline scientifique rigoureuse, même si les deux mots se ressemblent beaucoup. Parce qu'astronomie.
Alors pourquoi, justement?
Voilà, en fait, ils veulent dire la même chose. Astronomie vient du grec astronomia.
Donc il ne fallait pas fâcher Joël alors? Il avait
oui,
pas tort.
Non, les deux mots se ressemblent, mais aujourd'hui, ça ne veut plus dire du tout la même chose. Astronomie vient du grec astronomia, alors que astrologie vient du latin astrologia, qui est la traduction en latin du mot grec. Et tous les deux veulent dire étude des astres, étude ou connaissance des astres. Donc au départ, il y avait une confusion totale parce qu'on faisait pas la distinction. D'ailleurs, même jusqu'au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Morin de Villefranche, par exemple, qui a été le premier à observer une étoile en plein jour avec une lunette, c'est l'étoile Arcturus dont j'ai parlé le mois dernier, puisqu'on le voit dans le ciel, on la voit très bien dans le ciel en ce moment. Eh ben, il était à la fois mathématicien, astronome au Collège de France d'ailleurs, et à côté, il pratiquait l'astrologie, alors que c'était sous Louis XIII, il y a pas si longtemps finalement. Mais petit à petit, les choses se sont séparées, parce qu'avec l'astronomie moderne, on pourrait dire qu'elle commence avec Galilée en 1609, avec la lunette de Galilée, on a eu besoin de faire la distinction entre la partie scientifique de l'observation et de la connaissance des astres, et l'astrologie qui est en fait un art divinatoire, basé aussi sur l'observation du mouvement des astres dans le ciel. Mais ce sont deux choses bien différentes. Pourtant, elles partagent pas mal de notions. Ce qu'on appelle le zodiaque, par exemple, les constellations du zodiaque. Alors j'en ai parlé un petit peu le mois dernier, parce que dans le ciel de printemps, on parle de trois constellations du zodiaque, hein, comme je l'ai fait il y a un mois. Il y a la Vierge, il y a le Lion et le Cancer. Alors en hiver, j'avais parlé des Gémeaux et du Taureau, par exemple. Et ce sont des constellations du zodiaque, hein, et non pas des signes du zodiaque. Alors on pourrait se demander d'où vient ce zodiaque et ces constellations. En fait, comme la Terre fait un tour du Soleil en un an, hein, je pense que tout le monde sait ça, nous, vu de la Terre, on a l'impression que c'est le Soleil qui fait un tour autour de nous dans le ciel. Et ça dessine comme un grand cercle dans le ciel étoilé, qu'on appelle l'écliptique, hein, parce qu'en fait, c'est là que se produisent les éclipses. Cette écliptique peut devenir un calendrier, parce que, comme je l'avais expliqué, je crois que c'était en décembre, où j'avais parlé du calendrier de l'astronomie, il y a 12 lunaisons dans l'année, donc de là viennent nos 12 mois. Et on a eu l'idée de découper le parcours du Soleil, l'écliptique, en 12 sections qui font les 12 mois de l'année. Donc ce sont les Babyloniens qui ont fait ça. Au départ, on n'avait pas de constellations, on avait ce qu'on appelle des mentions, c'est-à-dire des maisons, hein, si on traduit en langage moderne, et le terme d'ailleurs mention est encore utilisé par les astrologues aujourd'hui. Donc ces mentions, c'était simplement des étoiles brillantes qui servaient de repères au fur et à mesure du passage du Soleil, mois après mois, dans le ciel. Et avec la construction des constellations qui sont venues un petit peu plus tard, à Babylone et chez les Grecs, où on a regroupé des étoiles pour dessiner des figures dans le ciel, ben ces mentions se sont transformées en constellations, 12 constellations du zodiaque. Le mot zodiaque, lui, vient du fait que la plupart de ces constellations étant des animaux, on utilisait le mot zo, hein, animal en grec, pour parler du zodiaque, c'est-à-dire la zone des animaux dans le ciel, si on peut dire. Voilà.
Très bien. Alors du coup, on continue sur ces constellations ?
Oui, alors l'astrologie, bon, jusque-là, ce que je vous ai raconté, c'est de l'astronomie, c'est le mouvement des astres dans le ciel. Hein, les planètes passent aussi dans la zone du zodiaque, tout simplement parce que le système solaire est plat. Hein, toutes les planètes tournent dans des orbites qui sont pratiquement situées dans le même plan. Donc dans le ciel, elles passent toutes au même endroit autour de l'écliptique, donc dans la zone du zodiaque. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'Antiquité, on faisait une différence entre le monde terrestre, donc la Terre et l'atmosphère, où les choses sont changeantes, imparfaites, donc le monde des hommes, et le domaine des dieux, qui était le ciel, qui lui était parfait et complètement immuable. Donc on a longtemps pensé que le ciel était le domaine des dieux, et donc tous les objets qui se promenaient dans le ciel, le soleil, la lune, les planètes, on les a assimilés à des dieux. Et comme on pensait que c'était les actions des dieux qui permettaient de définir le destin futur des hommes, on a essayé d'observer ces mouvements des, ce qu'on appelle aujourd'hui des planètes, mais qu'à l'époque on considérait comme des dieux, pour essayer de deviner ce qui allait se produire pour les hommes. Et c'est de là que vient l'idée de prédire l'avenir en regardant le mouvement des objets dans le ciel. Et c'est ça l'astrologie. Alors ce qui est curieux pour nous, en astronomie, jusque-là, ça peut être considéré comme relativement légitime, comme pensée il y a quelques siècles ou quelques millénaires même. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça survive encore jusqu'à nos jours. Et ça, c'est surprenant pour des astronomes qui savent très bien qu'on connaît bien les planètes, qu'on connaît les équations qui définissent leurs mouvements et leurs orbites. Donc, il n'y a plus lieu de croire encore à des fantasmes pareils, quoi.
Alors, sur quoi s'est basée l'astrologie, là ? Sur quoi les astrologues se basent ?
Alors, on a essayé de reconvertir, disons, les connaissances modernes en essayant de... Hein, les tenants de l'astrologie, d'expliquer pourquoi il y aurait ces influences. Et on a pensé à la gravité, hein, depuis Newton, que les planètes pourraient avoir une influence sur nous par le biais de la gravité. Mais là encore, si on adopte une démarche scientifique, c'est complètement impossible. Parce qu'en fait, il faut imaginer que même le plus gros corps du système solaire, Jupiter, qui est énorme, il est situé tellement loin de nous, à des millions de kilomètres, que son influence est infime. Et c'est pas les quelques milliers de kilomètres qui séparent les hommes sur Terre qui sont significatifs par rapport à ces millions de kilomètres. Donc on comprend pas pourquoi les planètes, qui ont le même effet sur tous les hommes sur la Terre, auraient des effets différents selon leur signe. C'est incompréhensible. D'ailleurs, Sandrine, vous êtes de quel signe ?
Capricorne, vous ne l'avez pas deviné ?
Eh ben non, vous n'êtes pas Capricorne.
Alors je ne suis pas Capricorne.
Non, parce que si on m'a bien renseigné, vous êtes né le 26 décembre.
C'est
je
ça.
Je sais pas l'année, mais le 26 décembre. Et le 26 décembre, vous êtes Sagittaire.
Et pourquoi ?
Eh ben parce qu'en fait, la notion de signe astrologique, hein, donc moi je vous ai parlé des constellations, mais qu'on nomme signe, hein, en astrologie, on dit qu'on est d'un signe parce que le Soleil se trouvait dans cette constellation au moment de notre naissance. Donc vous êtes né le 26 décembre. D'après les calendriers du 23 décembre au 20 janvier, on est Capricorne. Et ben manque de chance, le 26 décembre, le jour de votre naissance comme aujourd'hui, le Soleil était dans le Sagittaire. Parce qu'en fait, il y a un mouvement bizarre qu'on appelle, c'est un mot compliqué, la précession des équinoxes. Pour faire simple, si je veux donner une image à nos auditeurs, quand on fait tourner une toupie, Elle a un mouvement de rotation très rapide, mais en même temps, son axe tourne tout doucement, comme pour décrire un grand cône. Et bien, la Terre a exactement le même mouvement dans l'espace. Donc, le mouvement rapide, c'est la rotation en 24 heures, hein, qu'on connaît tous les jours, mais en même temps, son axe de rotation a un mouvement très, 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 très lent dans l'espace. Très, vraiment très lent, parce que je crois que c'est 23 000 ans ou 26 000 ans, à peu près, pour faire un tour. Mais comme ces notions d'astrologie ont été inventées il y a plusieurs millénaires, depuis lors, le mouvement a provoqué un décalage du Soleil par rapport aux constellations dans le ciel en fonction de la date. C'est un petit peu comme si les signes du zodiaque changeaient dans l'année, au fur et à mesure des siècles. Hein, ça se passe pas sur quelques années. Donc si on regarde aujourd'hui où se trouve le Soleil, quand on pense être d'un certain signe du zodiaque, on va vérifier qu'en réalité, il est souvent dans le signe précédent, hein, comme pour vous, le Capricorne, par rapport au Sagittaire. Alors, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce qu'il faudrait regarder au jour près. Hein, c'est pas... Parce que malheureusement, le Soleil ne passe pas un mois dans chaque constellation. Ce serait trop simple. Hein, si je prends les exemples extrêmes, la Vierge, qui est une très grande constellation, le Soleil y passe presque un mois et demi. Hein, le Soleil y passe du 17 septembre au 31 octobre, en fait, dans le ciel. Alors que si on prend l'autre cas, c'est le Scorpion, il n'y passe que 6 jours, du 23 au 29 novembre. Et en réalité, après, il passe dans une autre constellation, qui n'est pas du tout une constellation du zodiaque, c'est Ophiuchus, qu'on appelle parfois le Serpentaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a en réalité 13 constellations dans le zodiaque. Donc, tout ça pour vous expliquer que, si on essaie d'assimiler l'astrologie à une science, comme certains voudraient le faire, vous voyez bien que par rapport aux connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, il n'y a aucune base scientifique. Moi, j'empêche personne de croire dans l'astrologie, comme dans la tarologie, dont on a parlé tout à l'heure, de lire son horoscope tous les matins, mais c'est une forme de croyance. Il ne faut surtout pas croire qu'il y a un moindre rapport avec les connaissances scientifiques que nous apporte l'astronomie aujourd'hui.
Bon, est-ce que notre signe peut influencer quand même sur le caractère? Parce qu'on en parle, ça aussi, sans dire l'avenir, forcément, mais...
Ben, déjà, vous n'êtes pas du signe que... bon. dont vous croyez être, donc c'est
donc,
pas facile.
Il faut que je regarde le signe de Sagittaire.
Maintenant, on peut... Bon, j'avais pas préparé ça dans ma chronique, mais on peut imaginer aussi que le caractère est peut-être lié simplement au moment de l'année dans lequel on arrive sur Terre, tout simplement parce que le climat n'est pas le même, les activités ne sont pas les mêmes, et ça peut peut-être influencer dans la croissance un enfant. Enfin, moi, c'est l'idée que je m'en fais. Maintenant, après, chacun son opinion. En tout cas, l'astrologie n'a pas de base réellement scientifique par rapport à l'astronomie. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui.
Oui, ça reste la conclusion de cette émission. Juste une petite question quand même. On parlait de l'influence des planètes, ou on parle souvent de la Lune qui a une influence sur les animaux. Et là, vous dites que finalement, non, pas tant que ça, quoi.
Alors, la Lune a une influence sur les animaux. J'ai pas contredit ça. Mais c'est plutôt la lumière de la Lune. Suivant que la Lune est pleine ou que c'est la nouvelle Lune, on a une ambiance lumineuse qui est complètement différente. La plupart des animaux, il faut le savoir, ont une activité plutôt nocturne. Moi, par exemple, j'ai des lapins qui viennent dans ma pelouse. Il faut savoir que les lapins mangent beaucoup plus la nuit que le jour. Parce que tout simplement, la nuit, ils sont pas chassés. Et ils sont bien plus tranquilles. Donc en fait, c'est sûrement l'éclairage qui, dans une bonne part, joue un rôle sur le comportement des animaux suivant la lunaison.
Okay. Alors Michel Favré, on va passer au ciel du mois. Alors comment il est
voilà.
Ce ciel?
Alors quand on aborde la rubrique du ciel du mois, je parle parfois un petit peu des constellations, mais comme on l'a fait très en détail la dernière fois avec la description du ciel de printemps, je pense que le plus simple c'est de renvoyer les auditeurs sur notre précédente chronique ou sur les cartes. Hein. Je rappelle que sur notre site web www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org, dans la rubrique le ciel du mois, on trouve les cartes du ciel le soir avec quelques explications justement sur les constellations. Les objets qu'on peut essayer de regarder ou les planètes. Donc souvent, ce que j'explique, c'est un petit peu les planètes qu'on peut voir en ce moment. Donc tout le mois de juin qui va venir, on verra très bien le soir comme en ce moment, Jupiter et Vénus. Hein, Vénus est vraiment la plus brillante, très 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 brillante. Hein, donc tout ça se passe du côté ouest le soir après le coucher du soleil. En ce moment, Vénus se couche à peu près vers 1h du matin, donc on a largement le temps de le voir le soir. Vers la fin du mois, ce sera plutôt vers minuit. Jupiter se couche un petit peu plus tard. En ce moment, c'est plutôt vers 2h, mais à la fin du mois, ce sera à peu près minuit. Donc on les reconnaît bien parce que c'est vraiment ce sont vraiment des points très très lumineux dans le ciel, bien plus lumineux que toutes les étoiles autour d'elles. Hein. Alors à la fin du mois, vous voyez qu'elles se couchent presque en même temps parce qu'en fait, il va y avoir un rapprochement assez spectaculaire de Vénus et de Jupiter. Ça va commencer à peu près autour du 28 juin, entre le 28 juin et le 2 juillet, elles seront à moins d'un degré de distance l'une de l'autre, donc c'est vraiment très serré dans le ciel, c'est deux fois la taille de la Lune dans le ciel, c'est pas très grand. Et le minimum, ce sera le 30 juin. Et si la météo était favorable, on pourrait même pendant 15 jours, à partir du 22 juin, essayer de regarder petit à petit Vénus qui va croiser Jupiter dans le ciel au fur et à mesure des jours. Une autre planète qu'on peut voir en ce moment, c'est Saturne, qui est déjà levée maintenant quand la nuit tombe, mais c'est plutôt du côté est hein, qu'on peut la voir en soirée. Mais elle va traverser le ciel pendant toute la nuit puisqu'elle se couche qu'au petit matin. Alors bien sûr, il faut savoir où elle est dans le ciel. Ça, je ne peux pas l'expliquer facilement sans une carte. Pour ceux qui connaissent le ciel de l'été, elle est située dans le Scorpion, dont on a parlé tout à l'heure, et elle est légèrement jaunâtre. Et pour ceux qui ne connaissent pas le ciel de l'été, il y aura un repère facile, c'est lundi soir, 1er juin, car Saturne se trouvera juste un peu à droite de la pleine lune. Donc si vous voyez un point lumineux un peu jaunâtre, c'est Saturne. Ça ne sert à rien d'essayer de le regarder avec des jumelles. Une paire de jumelles ne grossit pas assez pour qu'on puisse voir les anneaux. Hein. Il faut déjà un petit télescope ou une petite lunette astronomique pour ça. Alors d'autres rapprochements de la Lune avec ses planètes. Le vendredi 19 et le samedi 20, mais surtout le samedi 20, on aura un fin croissant qui sera près de Jupiter et de Vénus. D'ailleurs, je ne sais pas si vos auditeurs ont pu le voir, moi je l'ai constaté vendredi soir. Il y avait une belle formation au triangle avec Vénus, un peu à gauche le croissant de Lune et un petit peu au-dessus Jupiter. Bon, on aura presque la même situation le samedi 20 mai. Et le dimanche 28, il y aura à nouveau un rapprochement de la grosse Lune avec Saturne dans le ciel. Voilà.
Rien pour le vendredi 29 mai ?
Rien de spécial.
Pour la fête des voisins d'entreprise, non ? Il se passe rien ?
Non, si, il fait beau, mais c'est entre 12 et 14 heures, si j'ai bien compris. Et malheureusement, pour les astronomes, en plein jour, il y a une seule étoile qu'on puisse observer, c'est le Soleil.
C'est déjà pas mal si on peut l'observer ce vendredi 29 mai. Michel Favré, merci.
De
on
rien.
Se retrouve le mois prochain ?
Voilà, en principe, je crois que ça doit être le 24 ou le 25 juin, quelque chose comme ça. Donc on commencera à parler un petit peu du ciel de l'été.
Et alors, si les gens veulent connaître leur vrai signe astrologique, comment ils font ?
On trouve ça sur Internet, c'est pas compliqué. Il y a sur Wikipédia, par exemple, on donne les signes, disons, traditionnels, hein, les périodes des signes traditionnels, et à côté, les vraies dates de passage du soleil dans les signes. Sinon, on trouve facilement des cartes électroniques, hein, il y en a même qui ont sur leur smartphone des simulations du ciel qui permettent de prendre le ciel à n'importe quelle date, n'importe quelle heure. Donc, il suffit de prendre la date de sa naissance. N'importe quelle année, ça n'a aucune importance puisque le soleil se trouve sur quelques dizaines d'années. Le soleil se trouve au même endroit, à la même date tous les ans. Et par exemple, en regardant à 14 heures, le ciel à 14 heures, on a le soleil dans le ciel, on voit bien dans quelle constellation il se trouve.
Michel Favré, merci. J'espère qu'on n'a pas déçu trop nos auditeurs qui croient à l'astrologie, hein, mais voilà, il vaut mieux dire les vérités. Donc,
l'astrologie... Ben surtout, il faut bien faire la distinction entre les deux. Quoi. D'un côté, on a une science, de l'autre côté, un art divinatoire. Ça n'a pas grand-chose à voir, même si les deux mots se ressemblent furieusement.
Donc, ne pas confondre l'astronomie et l'astrologie. Voilà. Merci à vous. On se retrouve donc le mois prochain.